Je vais vous adresser quelques mots d'introduction. Vous savez que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu, qui a inspiré la totalité des Écritures, a entendu qu'elle se termine par ce livre. Ce livre qui est donc inspiré, conçu dans la pensée de Dieu pour être la finale de cette collection magnifique des 66 livres que contient l'Écriture. L'Écriture, c'est-à-dire la Bible canonique, à l'exclusion des apocryphes. Donc l'Apocalypse est le 66e livre de la Bible, dont il constitue par conséquent l'achèvement. Il se présente en une suite de visions qui paraissent séparées, mais qui pourtant forment un tout. Et l'objet essentiel de ce livre, c'est de nous révéler. L'Apocalypse est une révélation, apocalypsis en grec signifie révélation. En anglais, là, le livre s'appelle, vous le savez, Revelation. L'objet, donc, c'est de nous révéler le dénouement de l'histoire de l'humanité. L'humanité va maintenant, son histoire va vers un dénouement. Et ce livre nous en révèle les grandes lignes. Lorsque Dieu a résolu de donner ce livre à son peuple, car c'est à l'Église qu'il l'a donné, il a voulu, il a entendu le préparer à aborder victorieusement la grande échéance des temps. Nous allons vers une échéance. Et Dieu a entendu nous préparer son peuple, l'Église, à cette échéance, c'est-à-dire au retour du Seigneur Jésus-Christ. Retour, je parle du retour en gloire, le retour pour le règne, que l'on nomme d'un mot que vous devez connaître, la parousie, parousia, la parousie. Et ce retour en gloire de Jésus-Christ sera précédé de terribles bouleversements. Et maintenant, déjà, nous pouvons en constater les prémices, c'est-à-dire que nous pouvons considérer que les difficultés que nous connaissons de tous ordres sont les convulsions. Sont déjà, nous sommes dans le temps des convulsions de la société humaine. L'Église a beaucoup à recevoir de l'Apocalypse. Elle doit notamment y apprendre une chose essentielle qui est de regarder constamment à son Seigneur, regarder par le regard de l'Esprit. Nous avons un regard par l'Esprit. Et ce regard qui peut dont l'exercice peut se développer, il faut absolument le maintenir, comme l'Épître aux Hébreux nous le dit, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Nous apprendre donc à regarder vers notre Seigneur, dont l'Église doit attendre le retour avec une ferme espérance. Je lirai ici un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12 et au verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et cela est dit même aux chrétiens vigilants, aux chrétiens attentifs, hein, aux consignes que le Seigneur nous a données et qui désirent vraiment être prêts, ceux qui ont souci d'être prêts pour sa venue, pour l'enlèvement de l'Église qui précédera la parousie, eh bien, même ceux-là seront surpris. S'il venait, par exemple, maintenant, nous serions surpris. Et il faut cela, le Seigneur l'a voulu ainsi. Souvenons-nous que la première venue du Seigneur Jésus avait été annoncée, cela par le prophète Malachie essentiellement, et par conséquent, la seconde venue est elle aussi annoncée avec une ampleur et un luxe de précaution plus grand encore, si l'on peut dire, que pour la première venue du Seigneur. Considérons aussi que le monde repose sur des bases absolument mauvaises et qu'actuellement il travaille à sa perte, et cela doit être évident pour nous. Ce n'est pas que nous ayons plaisir à juger le monde, mais il faut voir. Il faut voir. On ne peut pas nous faire grief de juger, mais nous avons besoin de voir, de constater que le monde actuellement travaille à sa perte. Ces désordres ne font que s'aggraver et le conduisent immanquablement à sa ruine selon la prophétie d'Ésaïe qu'il est bon que je rappelle maintenant. Elle est au chapitre 24. Je n'en lirai qu'une petite partie. Au verset 19, « La terre est déchirée. » Et quand le prophète dit « la terre », il veut essentiellement désigner la société humaine. La terre, nous disons encore aujourd'hui la terre, pour dire le monde, la société. « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. » Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Ça, c'est la fin de l'histoire, voyez-vous. La fin de l'histoire actuelle, la société tombe et ne se relève plus telle qu'elle était. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La captivité, les cachots, c'est tout simplement le séjour des morts. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées règnera. Voyez, cela va se passer donc tout près de la venue de Jésus dans son règne. L'Éternel des armées règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Recueillons de telles paroles parce qu'elles vont s'accomplir. Nous sommes dans le temps où, dans le temps de l'accomplissement, où l'accomplissement est tout proche. Tous ceux qui craignent Dieu et qui aiment le Seigneur Jésus-Christ vont donc trouver dans l'Apocalypse de grands encouragements. Et c'est ce que je désire pour vous tous maintenant. Ils y découvriront l'anéantissement de la puissance du mal, puissance à laquelle va se substituer la puissance de Dieu. Il va y avoir éclipse de la puissance du mal et venue de la puissance de Dieu, sous l'autorité du Christ apparaissant. Tout œil le verra, nous dit l'Écriture, et c'est alors que la gloire de Dieu embrasera la terre et établira sur cette terre le bonheur universel. Je ne veux pas maintenant vous donner d'autres citations, mais le livre de Daniel au chapitre 2 et au chapitre 7 nous parle de ce règne, déjà de ce règne de l'Éternel. Le témoignage et les visions de Jean nous transportent donc face à un ensemble d'événements à venir, dont la nature et l'ampleur ne nous sont pas familières. Et pourquoi l'Apocalypse n'est pas toujours comprise et n'est pas très facile peut-être à comprendre. Ce sont des bouleversements et des jugements qui atteignent une échelle jusqu'ici absolument inconnue. Et à cause de cela, ainsi que par le fait que le texte emploie des symboles, viennent les difficultés d'interprétation de l'Apocalypse. Du fait, n'est-ce pas, qu'il s'agit de bouleversements, de jugements qui sont choses non encore vues, non encore connues des hommes, et puis le fait que l'Apocalypse est obligé, pour en parler, de se servir de symboles. Alors tout cela, évidemment, concourt à donner à l'étude de ce livre une certaine difficulté. Le langage courant n'offre plus les moyens suffisants de décrire prophétiquement les réalités d'ordre surnaturel qui vont s'insérer dans les dernières années de l'histoire de ce monde. C'est pourquoi le texte inspiré de l'Apocalypse, donc, j'insiste là-dessus, se sert d'images et de symboles. La fin du monde, dont a parlé le Seigneur Jésus, c'est la fin d'un temps. Le mot « monde » est la traduction d'un terme grec « aion » qui signifie « longue période de temps ». C'est donc la fin de l'histoire du monde, telle que nous la connaissons maintenant. Cette fin, et le mot est de Jésus, Jésus employait ce mot, la fin, alors viendra la fin, a-t-il dit. Cette fin échappe au pouvoir de l'homme et à sa pensée. Dieu seul en connaît le mystère, et par l'Apocalypse, il en révèle le déroulement à son Église. Je voudrais, avant que nous abordions notre étude, vous parler un peu de l'emploi qui est fait dans l'Apocalypse du nombre 7. Parce que c'est quelque chose qui surprend, évidemment. On est frappé, on ne peut qu'être frappé par l'emploi répété du nombre 7. Tout d'abord, le nombre 7 fournit une structure générale au livre de l'Apocalypse. Le livre est structuré par l'apparition fréquente de ce nombre. Par exemple, 7 églises, 7 étoiles, 7 chandeliers d'or, 7 esprits de Dieu, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7 fléaux, 7 coupes d'or. L'agneau apparaît ayant 7 cornes d'or et 7 yeux. Les 7 anges, les 7 tête de la bête, les sept montagnes, les sept rois, etc. Mais remarquons ceci, c'est que le monde lui-même est redevable d'une certaine structure au nombre sept. Le nombre sept est un nombre tout à fait particulier. Si l'on fait de la haute arithmétique, on s'aperçoit que le nombre 7 a des propriétés qu'aucun autre nombre n'a. C'est assez curieux. C'est ainsi. Et ce nombre intervient dans l'univers, lui ou ses multiples. Par exemple, disons, il y a la semaine de 7 jours, cela Dieu l'a voulu. Il y a le spectre de la lumière blanche étant la fusion de sept couleurs. Il y a les sept notes principales en musique. Il y a le mois lunaire de 4 semaines, de 7 jours. Et puis, si l'on jette un regard du côté des choses de la zoologie, de la biologie même, on s'apercevra que le nombre 7, là encore, intervient d'une façon curieuse. En effet, la durée de la gestation des femelles des mammifères, qui varie avec les espèces, se maintient toujours à un multiple de 7. Je vais vous en donner des exemples. Le lapin, la lapine et la femelle du lièvre, par exemple, 28 jours, c'est-à-dire 4 fois 7. Le rat, la marmotte, 35 jours, c'est-à-dire 5 fois 7. La chatte, 56 jours de gestation, c'est-à-dire 7 fois 8. La chienne, le renard, 63 jours, 7 fois 9. Le putois, la louve, la truie, 119 jours, c'est-à-dire 7 fois 17. La chèvre, 154 jours, 7 fois 22. La vache, 287 jours, 7 fois 28. L'ânesse, 300, on donne quelquefois 300 ou 301, 300 jours, c'est-à-dire 7 fois 43. Le rhinocéros, 539 jours de gestation, c'est-à-dire 7 fois 77. L'éléphant, alors là c'est le record, 620 à 623 jours, c'est-à-dire 7 fois 89. Et puis, la compagne de l'homme, la femme, 270 à 275 jours, n'est-ce pas, à tenir compte de certaines variations, enfin, ça correspond à 7 fois 39. Voilà quelque chose de curieux quand même, n'est-ce pas? Et puis, on pourrait prendre bien d'autres exemples de l'intervention de ce nombre 7 dans les choses de la nature. La durée d'incubation des œufs. Les œufs de poule, la poule par exemple, n'est-ce pas, pour incuber son œuf, 21 jours, c'est-à-dire 3 fois 7. Le canard, 28 jours, c'est-à-dire 4 fois 7. Le cygne, 42 jours, c'est-à-dire 6 fois 7. Vous voyez, n'est-ce pas, il y a donc là des choses curieuses. On peut dire que dans l'univers même, alors là je ne vais pas aller chercher des exemples dans l'astrologie, mais il y en a, le nombre 7 joue un rôle important, mais même les nombres en général. Car rien n'arrive par hasard ou de manière désordonnée. Tout se déroule selon des lois et selon un ordre divin que l'homme ne discerne pas toujours, bien sûr, par science, par sa science, il le discerne tout de même, mais il ne reconnaît pas qu'il y a un ordre. Il ne veut pas, il est retenu. N'oublions pas que l'homme provient de la chute, et la chute est en lui. Les conséquences de la chute sont en lui. Il ne veut pas reconnaître. ces choses, n'est-ce pas? Et pourtant, elles sont évidentes, il y a donc dans l'univers un ordre. Et parler de hasard, parler d'évolution, hein, c'est véritablement là, nous pouvons dire, de la mauvaise foi, tout simplement. Certains mots dans l'Apocalypse figurent 7 fois. Par exemple, le mot Christ, le mot heureux, Makarios, le mot nuée, le mot abri. D'autre part, on relève 7 proclamations de la ruine de Rome. Nous verrons ce qu'est cette ruine. Curieusement, dans le grec de l'Apocalypse, le terme « abri » est formé des mêmes consonnes qu'en hébreu, c'est-à-dire « S-K-N » en transcription de l'alphabet français, « S-K-N », d'où vient le mot « Shekina », la gloire. Bien sûr, nous n'allons pas considérer ces choses-là avec une pensée superstitieuse. Mais nous ne voulons pas non plus verser dans la raideur d'un esprit rationaliste. Ne prenons que ce qui appartient vraiment au cadre de la révélation biblique. Et cette révélation veut nous montrer que le monde est bien ce que l'a fait Dieu. Ce que Dieu l'a fait, ce que l'éternel Dieu l'a fait. Le nombre 7 apparaît 49 fois, 7 fois 7, dans l'Apocalypse. Notons aussi qu'en hébreu, le terme « Sheba » signifie à la fois « 7 » et « alliance ». Alliance et 7. Ce qui déjà éclaire le sens symbolique du nombre 7. Le chiffre 7 renferme une idée d'achèvement, de plénitude. En somme, on peut dire qu'il traduit l'idée d'une entité indissoluble. Pour comprendre les expressions figurant notamment au chapitre 5 et que nous verrons, j'aime autant, puisque nous sommes sur le chiffre 7 maintenant, vous en donner l'explication. Les expressions du chapitre 5, notamment verset 6 de l'Apocalypse, où nous voyons que l'agneau a 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors là, nous pouvons nous reporter au chapitre 11 du livre d'Ésaïe, le prophète. Chapitre 11. Évidemment, nous pourrions être étonnés, n'est-ce pas, de voir le Seigneur Jésus présenté comme l'agneau avec 7 cornes d'or et 7 yeux. 7 yeux. Eh bien, ces 7 yeux, nous est-il dit, sont les 7 esprits de Dieu. Voici ce que nous dit Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors, nous avons une énumération là. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Alors, nous en avons 6. Il nous en manque un. Mais si nous continuons à lire, nous verrons ceci. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Sa justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le 5e esprit, c'est celui de la justice. un esprit de justice et de fidélité. Si bien que nous avons en effet une gamme de sept aspects, sept caractères de l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se trouve donc décrit, si vous voulez, de sept manières différentes. Si bien que l'esprit de Jésus est présenté prophétiquement par l'Apocalypse dans la diversité et la perfection de ses manifestations pour l'accomplissement du plan de Dieu. Pour l'accomplissement du plan de Dieu, il fallait que l'Esprit de l'Éternel fût développé dans ses sept caractères. Exactement, si vous voulez, comme le spectre de la lumière blanche, n'est-ce pas, qui fait apparaître les sept couleurs, et on peut dire que les sept esprits sont en quelque sorte le spectre, si vous voulez, de l'esprit de l'Éternel. Les composantes, ce sont les sept composantes de l'esprit de l'Éternel. Enfin, ajoutons à la structuration due au nombre sept, cette particularité, l'Apocalypse contient sept béatitudes qui sont précieuses, sept béatitudes, et il contient aussi 14 malédictions. 2 × 7, 14 malédictions. Voilà pour l'introduction. Nous allons maintenant lire les trois premiers versets de l'Apocalypse. T1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent, et qui gardent, pardon, les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors, méditons d'abord ces trois versets, qu'on appelle généralement le prologue. Le livre tout entier de l'Apocalypse constitue une révélation, Apocalypsis, une révélation essentiellement prophétique que Jésus-Christ a communiqué, a fait connaître, a communiqué à son serviteur Jean, en lui envoyant son ange. Je pourrais vous lire dans la parole vivante, c'est-à-dire la transcription de la Bible par Alfred Kuhn. Voici comment il exprime les trois premiers versets. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie. Heureux ceux qui les entendront s'ils retiennent ce qui est consigné dans cet écrit, et l'observe, car l'heure de l'accomplissement est proche. Vous voyez, c'est peut-être plus explicite que le texte dépouillé de notre version seconde. Donc ce livre de l'Apocalypse n'est pas destiné à des curieux. Malheureusement, c'est le sort qu'on lui a souvent donné. Il n'est pas destiné non plus à des profanes ou à des ignorants de la Bible, mais il est destiné à ceux que leur foi, leur désir d'obéissance et leur connaissance préparent à le comprendre. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont déclarés heureux. Makarios, le mot grec, Makarios, qui figure cette fois dans l'Apocalypse. Vous savez, il faut bien que nous nous souvenions d'une chose, c'est qu'il y a une différence entre croire, le croire, et la foi. Croire, c'est accueillir une énonciation, une parole, un écrit, l'accueillir et pouvoir dire, bon, oui, je tiens cela pour vrai, c'est bien, bon, je ne conteste pas, je le prends, ça c'est le croire, c'est croire. Mais la foi, c'est tout autre chose. Je sais bien que le texte biblique emploie aussi le verbe croire, à dessein, mais dans un autre sens peut-être. Mais la foi, c'est tout autre chose que croire. La foi, c'est faire usage d'un sens spirituel que tous les hommes ont, jusqu'au l'homme le plus réfractaire, l'homme athée le plus décidé, n'est-ce pas ? Tout le monde a dans le cœur le sens de l'éternité, c'est-à-dire un sens spirituel et qui l'homme en est doté exactement comme dans son corps il est doté des sens physiques, 5 sens physiques. C'est la même chose. Il en est doté. C'est dans ce sens qu'on peut dire que la foi est un don de Dieu. Mais il y a l'exercice de ce sens. Nous pouvons avoir une vue, nous pouvons avoir des oreilles, mais ne pas voir et ne pas entendre, comme le Seigneur l'a dit d'ailleurs. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles et ils ne voient pas, ils n'entendent pas. On peut très bien, n'est-ce pas, ne pas vouloir user des sens que le Seigneur nous a donnés. Mais la foi, c'est l'exercice précisément de ce sens spirituel. Et si ce sens spirituel s'exerce sur son objet, et son grand objet, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, et la parole, bien sûr, de Dieu, alors s'il s'exerce là, avec confiance, ce sens va faire des merveilles, parce que il est doté d'une puissance. C'est un sens puissant, un sens pénétrant, et un sens qui va permettre de s'approprier la vérité, les vérités, et d'en faire quelque chose de bon, naturellement, en faire quelque chose. Voilà la foi. Voyez la grande différence avec tout simplement le croire. Donc c'est la foi qui nous est demandée. Nous avons quelque chose à faire par le sens spirituel qui est en nous. Nous avons quelque chose à faire de l'Apocalypse. Le prologue, en somme, vient de nous déclarer que l'Apocalypse n'est pas un livre rebutant, puisque il est destiné à, au contraire, réjouir, rendre intérieurement heureux ceux qui le consultent. Ce n'est pas un livre butant, ce n'est pas un livre obscur. Ce n'est pas un livre qui est allégorique à l'excès, ou seulement catastrophique. En général, on le considère sous cet angle, n'est-ce pas ? Quand on parle d'Apocalypse, on veut tout simplement caractériser une catastrophe, quelque chose de catastrophique. Les prédictions prophétiques de l'Apocalypse ne sont pas destinées aux gens qui sont attirés par le mystère ou par le fantastique ou même à des chrétiens aimant jouer avec les secrets de l'avenir, non plus à des chrétiens et qui chercherait dans les événements de la fin des temps une connaissance pouvant remplacer la sagesse dont il manque dans le présent. Voyez, il y a là, n'est-ce pas, des avertissements importants. C'est à de fidèles disciples que le livre est adressé par Jésus-Christ lui-même. Nous allons maintenant lire les versets 4 à 8, toujours dans le chapitre 1er. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous allons voir ces quelques versets. Les sept églises, il s'agit, vous le savez, cela, de sept églises qui se trouvaient dans l'Asie occidentale, la partie occidentale de l'Asie qui est appelée l'Asie mineure, et qui était, au premier siècle, la province la plus cultivée de l'Empire romain. Elle comportait encore d'autres églises que les sept qui sont désignées et auxquelles le Seigneur s'adresse. Il y avait par exemple l'église de Colosse, qui n'est pas parmi les sept. Hiérapolis n'y est pas non plus. Il y en avait d'autres. Cependant, que les caractères de ces sept églises, au jugement du Seigneur Jésus, résument la totalité de ceux qu'un plus grand nombre d'églises pourraient présenter. Dans les sept églises qui sont choisies par le Seigneur, eh bien, nous avons là l'ensemble des caractères, de tous les caractères qu'on pourra retrouver dans toutes les églises de tous les temps. Si bien que le Seigneur dira à la fin de chaque lettre que celui qui écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises, AUX, aux églises de tous les lieux et de tous les temps. Jésus-Christ est désigné de trois manières, ici. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Jésus, ne l'oublions pas, devant Pilate, s'est présenté comme roi et témoin de la vérité. Je suis roi, tu le dis, je suis roi, roi et témoin de la vérité. Je suis né et venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité, témoin de la vérité. Tout le ministère de Jésus sur la terre revêt le caractère d'un témoignage fidèle à la vérité qui est quelque chose d'inébranlable, d'inchangeable, et il est ce témoin tant par la parole, par sa parole, que par l'œuvre de rédemption. L'œuvre de rédemption est un témoignage, fait partie du témoignage de Jésus. Jésus est donc bien le témoin fidèle. Il est le premier-né des morts parce que il est le ressuscité qui donne la vie éternelle aux hommes de foi. Et enfin, il est le prince des rois de la terre. Au verset 6, nous avons lu que il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Le Christ est souverain sacrificateur et roi, et ses disciples lui sont associés. Les souverains sacrificateurs, il est lui aussi la victime que Dieu nous a donnée, mais il est dans le rôle de souverain sacrificateur. Il est souverain sacrificateur et la victime, c'est lui aussi. Bon, mais sa mission de souverain sacrificateur est de toute première importance. Souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il offre à Dieu la seule victime par l'offrande de laquelle les hommes peuvent être déchargés de leur culpabilité devant Dieu, peuvent recevoir le pardon éternel. Et puis, il est roi. Cela, nous avons eu l'occasion de l'étudier à Ganges une fois. Il est roi déjà maintenant parce que il règne dans les cœurs, il règne dans les vies. Je ne dis pas qu'il règne, si vous voulez, dans l'Église. Son rôle dans l'Église est un peu différent. Mais il règne dans les cœurs. Il règne dans les cœurs. S'il est présent en nous, si nous croyons que Jésus est en nous parce que nous sommes nés de nouveau, eh bien, il est là pour régner. Régner dans nos vies. Et puis, il régnera aussi d'une façon éclatante, visible, avec tous les extérieurs que peut prendre le règne lorsqu'il reviendra. L'Église n'a pas été appelée à l'oisiveté, mais à l'activité au service du Maître, dans le cadre du sacerdoce royal. C'est pourquoi il est écrit qu'il a fait de nous, c'est-à-dire de ses disciples, un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Dans le cadre de son sacerdoce royal, l'Église doit s'employer. Et dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons que la grande œuvre de l'Église, c'est le sacerdoce universel et tout doit concourir à la préparer, à préparer ses membres au sacerdoce universel. L'Église ne supporte-t-elle pas l'opprobre et les souffrances que le Maître a supportées lui-même et n'a-t-elle pas été envoyée dans le monde comme le Maître lui aussi a été envoyé? Jésus a beaucoup insisté sur le fait qu'il avait été envoyé dans le monde, et l'Église est envoyée. « Comme j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie », a dit le Seigneur.